Bonjour Hugo.
Bonjour
Heureuse
Christine.
De te rencontrer à nouveau. Tu es un fidèle de notre association depuis la sélection de ton premier roman, Un baiser dans la nuque, en 2005. Tu es revenu souvent, soit pour nous présenter un autre de tes romans, participer au jury du prix du deuxième roman, ou bien animer un atelier d'écriture avec les lycéens lors des festivals. En août a été publié ton dernier roman, Débarqué. Peux-tu nous en parler en quelques mots ? Voilà.
Bien sûr. Merci d'abord de me réinviter à Laval. Débarqué, c'est l'histoire d'un vétéran du 6 juin 44 qui ressent le besoin à la fin de sa vie. C'est un vieillard, hein, il a plus de 90 ans, de revenir pour la première fois sur les traces des combats qu'il a menés en Normandie. Et cet homme va être accueilli par une jeune guide des plages qui a une trentaine d'années, deux enfants. Et normalement, pour les guides des plages, recevoir un vétéran, c'est le Graal. Ça arrive une ou deux fois dans la vie.
Ouais.
Sauf que Andrew, c'est le nom du vétéran,
ouais,
débarque au pire moment dans la vie de Magali, parce que Magali est confrontée à ce qu'on appelle une disparition inquiétante. C'est-à-dire que son mari a disparu 9 mois auparavant. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. On ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il s'est suicidé, on ne sait pas s'il est parti de son plein gré, ce qu'elle redoute profondément. Et elle ne vit plus, en fait. Elle tient grâce aux médicaments qu'elle prend. Et elle essaie d'abord de refiler le bébé à quelqu'un, si j'ose dire, que quelqu'un prenne en charge à sa place ce vétéran. Elle n'y arrive pas. Et elle doit aller accueillir cet homme à la gare de Bayeux. Et normalement, quand un vétéran se déplace aujourd'hui, il y a une escorte avec lui.
Ah oui.
Ils sont 10-20 à l'accompagner.
Ouais, ouais.
Un vétéran vient avec sa famille, il vient avec une infirmière, il y a des associations. En plus, il y a des mouvements de foule quand ils arrivent.
Exactement, c'est un événement.
Ils sont très bien accueillis par les Normands. C'est presque des stars du rock. Les gens, littéralement, ressentent le besoin de les toucher.
Ouais.
Ils font des selfies, mais vraiment, ils ont, comme s'ils incarnaient quelque chose de sacré, ils ont besoin de les toucher. Il y a même eu des cas où ils essayaient de leur couper des mèches de cheveux. Donc il faut quand même les protéger. C'est pour ça qu'il y a une escorte. Sauf que Andrew est seul. Il a fait seul le voyage depuis le Connecticut. Et Débarqué va raconter comment leurs deux destins vont se nouer.
Oui, j'étais un peu surprise parce que, effectivement, j'étais dans Débarqué, j'avais plein d'images qui me venaient en tête. Il faut sauver le soldat Ryan. Enfin, j'étais vraiment là-dedans. Puis en plus, pour nous, Mayennais, les plages du débarquement, c'est relativement proche. Donc, c'est quelque chose que l'on connaît. Et puis subitement, je me suis dit, j'ai l'impression d'arriver dans un deuxième roman. Et après, d'une manière très subtile, tout s'enchaîne. Tout se tresse. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous en lire un extrait ?
Avec plaisir. Des semaines qui ont suivi la disparition, Magali ne se souvient que d'une attente fiévreuse. Les gendarmes ne la contactaient jamais. Elle était toujours à l'initiative. Il fallait plusieurs tentatives avant d'être prise au téléphone. Alors elle se déplaçait, presque gênée de les interrompre dans leur travail. Lucille disait que s'il avait été question d'une femme blanche, ils auraient agi différemment. Son amie semblait encore plus furieuse qu'elle par moments. Magali acquiesçait mollement, savait que les circonstances jouaient contre elle. On pouvait le prendre par n'importe quel bout. Darius avait quitté la maison après une dispute, son passeport dans la poche. Alors elle a commencé à fouiller dans ses affaires pour trouver un indice. Avec un ou deux mots de passe qu'elle connaissait, elle a tenté de déverrouiller son ordinateur portable. Quand elle a déposé le MacBook Pro sur le bureau du brigadier, il le lui a rendu aussitôt, rétorquant qu'il ne ferait rien sans une perquisition. Depuis son propre ordinateur, elle a essayé de pirater sa boîte mail. Elle a fait des requêtes sur son nom dans Google qui faisaient remonter des annuaires professionnels, l'association des anciens de la fac de Caen, le site de la coopérative d'Isigny, un compte Facebook qui ne consultait plus depuis belle lurette. Elle ne savait pas bien elle-même ce qu'elle cherchait. En désespoir de cause, elle a traîné sur le net pour lire des témoignages de proches confrontés à la même situation. Elle est allée se perdre sur des forums de discussion où elle a lu des histoires d'abandon sordides, conforté dans sa propre responsabilité par les commentaires péremptoires des internautes. Un enfant n'a jamais retenu un homme. Si ton ami est allé chercher ailleurs, c'est qu'à la base, il avait des manques. Tu ne t'en es peut-être pas aperçu, mais c'est une réalité. Ce n'est pas de tes enfants qu'il ne veut pas, c'est de la vie avec toi. Je te trouve juste binaire. Les quittés sont des saints, les quitteurs sont des salauds, c'est tellement faux. Un jour ou l'autre, on aime ailleurs. J'ai plus de respect pour celui qui quitte et qui reste sincère avec lui-même que celui qui reste et qui enrage au fond de lui de passer à côté de sa vie. Magali s'est rapprochée d'une association qui portait assistance dans la recherche des personnes disparues. La dame au téléphone n'était pas étonnée de l'inertie administrative et du peu de démarches entreprises par les gendarmes. Il n'y avait pas d'enquête à proprement parler quand il s'agissait d'un majeur, à moins de prouver qu'il était en danger ou qu'il avait pu disparaître contre son gré. Elles ont regardé ensemble s'il y avait un moyen de faire passer l'affaire au pénal, seule manière d'accélérer le processus. Mais Magali n'avait rien pour déposer une plainte contre X pour enlèvement ou séquestration. Il n'y avait aucun guichet pour son problème. Elle a appelé les amis de fac de Darius, qui n'étaient au courant de rien bien sûr, n'avaient pas eu de contact avec lui récemment, et pour qui Magali devait parcourir à nouveau l'épuisant récit de ces derniers jours. Puis elle est passée à l'improviste à Isinid dans l'espoir de rencontrer les collègues de Darius. La responsable des ressources humaines l'avait appelée sur le fixe de la maison pour prendre des nouvelles quand il ne s'était plus présenté. Un collègue de son mari, Tancred, l'avait accueillie en se demandant à voix haute ce qu'il devait faire, la conduire ou non à la direction, puis s'était décidé à la présenter d'abord aux camarades, comme il disait. Magali avait ressenti une émotion imprévue en découvrant l'espace de travail de Darius qu'elle n'avait jamais vu avant ce jour. Elle était restée figée devant le siège ergonomique, la surface noire de l'écran plat au-dessus duquel il avait scotché, par dérision, de vieilles lunettes 3D en plastique rouge et vert, le repose-main fixé au clavier, le stand métallique pour surélever l'ordinateur portable, une petite figurine parlante du maire de Baltimore dans The Wire, une réplique de peau à lait aux armes de la coopérative où il rangeait ses stylos, tous ces objets immobiles et muets, saturés de silence. Une pensée affreuse lui avait alors traversé l'esprit. Elle ne connaissait pas cet homme avec qui elle avait fait deux enfants. En même temps que les larmes gonflaient derrière ses yeux, elle s'était redemandé ce qu'elle cherchait ici. Non, bien sûr, les collègues de Darius n'avaient rien remarqué d'anormal dans son comportement. Non, il n'avait pas l'air malheureux. Non, il ne leur avait rien dit de spécial. Il n'avait que leur embarras à lui offrir, et c'était déjà beaucoup. Elle était la compagne du type dont on avait repris les tâches parce qu'il fallait bien avancer dans la refonte du service client, l'épouse de l'homme qui avait disparu. Celle qui faisait douter de la solidité du socle sur lequel toutes leurs existences reposaient.
Cette dernière phrase, pour moi, elle est importante parce qu'elle résume quelque part tout le roman. Mais je vais laisser au lecteur le plaisir de découvrir pourquoi. Alors, on va remonter le temps, si tu veux bien. Et après avoir fait des études politiques à Bordeaux, tu as étudié à l'École nationale supérieure Louis Lumière à Paris. Le cinéma. Pourquoi ce changement de cap ?
Je me suis rendu compte que le désir de faire Sciences Po n'était pas vraiment le mien. J'ai l'impression que ça avait été plus celui de mon père, en fait, après coup.
C'est souvent le cas.
Ça arrive.
Ouais, ouais. On est très influencé par les choix des parents. Ou tout au moins ce qu'ils auraient aimé faire, peut-être, et qu'ils n'ont pas fait.
Et même si j'avais de la réussite dans les matières enseignées à Sciences Po, en fait, je ne prenais pas mon pied. Enfin, je m'en suis rendu compte trop tard, juste avant de passer le concours. Je pouvais pas m'arrêter là.
Autant aller jusqu'au bout quand même.
Voilà. Et en fait, dans l'été qui a précédé, j'avais 18 ans, j'ai traversé un épisode dépressif. Ça m'était jamais arrivé et ça ne m'est jamais arrivé depuis. Et ça m'a bouleversé en fait. J'ai jamais été aussi mal de ma vie qu'à ce moment-là. Je me regardais dans la glace et j'étais étonné de voir à quel point mon visage était inchangé alors qu'à l'intérieur tout était effondré. Ça me paraissait aberrant que les deux ne soient pas
En osmose, quoi.
Tout à fait. Et ce qui m'a aidé, ce qui m'a sauvé d'une certaine façon, c'est une discussion avec ma belle-mère qui m'a autorisé à imaginer faire du cinéma. Parce que je pouvais pas le concevoir. Enfin, c'était et donc bah, j'ai à peine entré à Sciences Po, bah, je me suis inscrit en fac art du spectacle pour commencer à faire de l'histoire du cinéma, d'analyse filmique et apprendre à écrire des scénarios. Et j'ai commencé à écrire voilà, des nouvelles littéraires en même temps que j'ai commencé à écrire des scénarios de court-métrage. Et puis après, bah, ça s'est enchaîné. Je suis retourné à Paris faire ce qu'on dirait aujourd'hui, on appellerait aujourd'hui un master en audiovisuel, et puis après Louis Lumière, l'école de cinéma.
D'accord. Oui. Alors justement, un de tes romans, Police, a été adapté au cinéma. Quand on est romancier, est-ce que c'est facile de laisser son livre entre les mains d'un réalisateur? Ou est-ce que...
C'est très facile.
C'est très facile.
C'est très facile. En tout cas, dans mon cas, non, parce qu'on dit, c'est une manière de boutade, mais on dit que bah, lorsque l'adaptation est réussi, c'est grâce au livre. Et puis quand elle est ratée, c'est parce que la réalisation voilà. est mauvaise. Et moi, j'ai eu de la chance parce que le producteur qui s'en est emparé, Jean-Louis Livier, quelqu'un d'extraordinaire, de très fin, avec son ami Philippe Carcassonne. Et puis il a tout de suite pensé à Anne Fontaine, qui est une réalisatrice que j'adore, et donc elle a une approche très sensible du livre, et j'ai aimé l'adaptation. Alors ce qui est pas écrit d'avance.
Non. Et est-ce que tu as participé à l'écriture du scénario? Est-ce que tu as pu mettre ta patte de temps en temps ou...
Alors lors de notre premier entretien, Jean-Louis Livy, le producteur, me l'a tout de suite proposé, et moi j'ai tout de suite refusé. Je savais que je n'avais pas la souplesse nécessaire pour une adaptation libre. Une bonne adaptation, c'est une adaptation qui trahit le livre.
Ouais.
Et moi, vous me citez 5 mots consécutifs dans Débarquer, je crois que je suis capable de vous dire où ça se passe. À quel moment du livre, dans quel chapitre. Je connais le livre par cœur. Il y a eu 67 versions de Débarquer avant qu'il soit publié. Et pour adapter le livre, il faut être capable d'inventer de nouveaux personnages, d'en supprimer d'autres, de créer de nouvelles scènes. Enfin, et je savais voilà, que j'étais pas capable de ça. Il y a David von Kinos qui avait eu dans une interview une formule que je lui vole parce que je la trouve marrante. Il disait adapter son propre roman, c'est comme ressortir avec son ex. Alors lui l'a fait, moi non. Et voilà, ça veut tout dire. Voilà, son ex, on la connaît.
Ouais, ouais.
Et je la connais un peu trop, voilà.
Voilà. Et est-ce que l'écriture d'un roman et celle d'un scénario peuvent se nourrir l'une de l'autre ou est-ce vraiment très très différent?
Alors c'est une question très intéressante parce que souvent les gens n'ont jamais tenu entre les mains un scénario de film et c'est très aride. Un scénario. C'est un document de travail qui est sec. Je vous donne quelques exemples. Si on caricature à l'extrême, vous n'avez le droit d'utiliser que les verbes voir et entendre dans un scénario, parce que l'écran est audiovisuel. Tout doit être traduit en images.
En images, voilà.
Et en son. Une page de scénario doit faire une minute de film. Il faut qu'il y ait une correspondance.
D'accord.
C'est un film d'une heure trente doit naître d'un scénario qui fait environ 90 pages. Vous ne pouvez pas avoir un décalage. Bon, donc c'est très contraint. Vous n'avez le droit qu'à un seul temps grammatical. Le présent de l'indicatif.
Oui, parce qu'en fait, ça se déroule sous l'œil du spectateur. Donc,
exactement. Voilà. Tout se passe au présent, ici, maintenant. Ouais. Et donc, c'est si je dis Christine... prépare son interview avec Hugo Boris. Elle a peur de ne pas avoir tapé ses questions à temps. Imaginons qu'on ait cette phrase-là dans un scénario. Non, ça c'est, on peut pas. C'est interdit. On peut pas avoir ça dans un scénario. Il faudrait dire Christine tape au clavier de son ordinateur, consulte sa montre et redouble de vitesse sur le clavier. Ça c'est une phrase de scénario. voyez là, à quel point
c'est décrit à l'excès.
C'est une écriture très contrainte.
Ah, ouais. Ça doit être contraignant pour l'acteur qui joue.
Alors, pour l'acteur, je ne sais pas. Ça lui laisse aussi un espace de liberté.
Ouais. C'est ce qui explique un peu, moi personnellement, quand je vais très rarement voir un film adapté d'un roman que j'ai lu, parce qu'à chaque fois, je suis déçue. Parce que ce n'est pas le film que je me suis fait.
Oui. D'ailleurs, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le faire. En fait, il faut en effet lire d'abord avant d'aller.
Ah oui.
Parce que sinon,
je vais rarement,
votre imaginaire est colonisé.
Je vais rarement, parce que ce n'est pas le film, ce n'est pas celui que je me suis fait. Et ça dure depuis mon adolescence.
Alors, il y a moi, j'ai dans mon souvenir, j'ai quelques exceptions. Je suis d'accord avec vous dans 95% des cas. Moi, j'ai par exemple préféré clairement Shining. The Shining au livre de Stephen King, alors que j'adore Stephen King par ailleurs. J'ai préféré La Chambre des Officiers, le film de Duperron, au livre de Dugin. Il y a quelques cas comme ça.
Ça peut fonctionner, je pense, de temps en temps.
C'est rare.
Alors, revenons sur trois autres de tes romans. Le baiser dans la nuque, La délégation norvégienne, Je n'ai pas dansé depuis longtemps. On sent chez toi une prédilection pour le huis clos. Enfin, tout au moins, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture de ces trois romans-là. Et est-ce que ça correspond à un trait de ta personnalité ? Est-ce que tu aimes être un peu enfermé, un peu en huis clos comme ça ?
Oui, y a un côté peut-être casanier, confiné naturellement, mais la forme du huis clos me rassure, je crois. La forme artistique du huis clos, parce que ça me permet de ne pas me disperser. C'est ici et maintenant que ça se passe. Mais alors maintenant que j'avais un métier en ville pendant 13 ans que j'ai quitté, et maintenant je suis un peu trop à la maison, donc je suis de moins en moins amateur de huis clos. J'aime bien venir à Laval, par exemple, pour sortir
gentil,
de chez moi.
C'est gentil de me dire ça. C'est un espace de respiration, alors,
exactement.
Si je comprends bien. Bien. Maintenant, je voudrais me passer à ton roman « Trois grands fauves ». Pourquoi ces trois hommes-là ? Pourquoi Danton, Victor Hugo et Churchill ? Bon, c'est vrai qu'ils étaient imposants. Je ne vais pas faire de jeu de mots, au sens propre comme au sens figuré. Mais pourquoi ces trois personnages-là ?
C'est vrai que je n'avais pas réalisé ces trois... ces trois gros.
Je n'osais pas. Moi, je te laisse. Mais c'est vrai qu'ils étaient imposants.
Gros, ce n'est pas vrai. En plus,
imposant.
Très fort, imposant et très musclé aussi. Danton,
ouais.
C'était un athlète.
Ouais.
Il nageait... il nageait beaucoup. Tout est parti de Danton. Je préparais... La boucle est bouclée. Je préparais le concours d'entrée à l'école Louis-Lumière. Et moi, j'ai une formation plutôt littéraire. Et pour entrer à Louis-Lumière, il faut faire des maths, de la chimie, de l'optique, de la physique. Bon, donc il a fallu que je me mette à niveau. Et je prenais du cours du soir au Caméra Club d'Orsay. Et moi, j'étais étudiant dans la journée, j'étais en master. Et j'enchaînais là, le mercredi soir, avec 3 heures de cours. Et un soir, je n'avais pas dîné. J'ai enchaîné les deux et j'ai commencé à divaguer. J'ai fait une sorte de malaise hypoglycémique pendant le cours au Caméra Club et j'arrivais plus du tout à le suivre. J'étais vraiment mais affamé. J'aurais mangé n'importe quoi si j'avais trouvé des miettes dans mes poches. J'aurais mangé. Et dans cette divagation, je me suis demandé quelle serait la plus grande ironie pour quelqu'un qui a faim. Je ne sais pas comment ça m'a traversé, mais c'est... Et je me suis dit que ce serait d'être en route pour l'échafaud.
Ah oui, quand même.
Oui, j'avais très faim. je me suis vu mourir là. Non, j'avais. Et je trouvais qu'il y avait, un paradoxe assez séduisant à l'idée d'avoir un corps encore désirant, alors que ça n'a plus de sens d'avoir encore du désir, d'avoir encore faim, puisque dans quelques instants, la tête va être séparée du tronc. Voilà, on va mourir. Mais le corps est une machine à vivre. La veille de votre exécution, si vous faites une coupure, le corps va commencer à cicatriser. Et dans un deuxième temps, je me suis demandé quel serait l'homme politique qui pourrait être le dépositaire d'une telle fin. Et là, j'ai pensé à Danton, qui était voilà, un homme d'appétit.
Ah oui.
Je trouvais que c'était pas invraisemblable que sur la charrette des politiques, en chemin vers la place de la Révolution, ils puissent comme ça avoir faim. Et parfois, vous écrivez un livre entier, juste parce que vous avez le désir de raconter une scène. Alors là, c'était une nouvelle. Et à partir de là, j'ai commencé à me documenter sur Danton. Donc, j'étais tout jeune, hein, j'avais une vingtaine d'années, et j'ai c'est là que s'est mis en place ma méthode de travail, parce que j'ai continué à me documenter pour tous mes textes ensuite, systématiquement. Et donc, j'ai eu cette approche de revoir le Danton d'Andrzej Wajda, d'aller voir la pièce de Büchner, La mort de Danton, d'aller visiter la conciergerie, de lire les minutes du procès. Je suis même allé rue Danton voir ce qui se passait. Il se passait évidemment rien rue Danton.
Vraiment être immergé dans Danton.
Et donc, j'ai découvert d'autres aspects de sa vie. Parce qu'en fait, quand vous cherchez, vous trouvez. Mmh. Et donc, ça a donné cette nouvelle. Et puis après, j'ai eu l'impression qu'on pouvait prolonger, qu'il y avait une sorte de filiation possible, imaginaire, avec Victor Hugo et Winston Churchill. Et ça permettait d'embrasser toute l'histoire moderne. L'histoire moderne commence avec la Révolution française, Danton. Victor Hugo, qui à lui seul embrasse tout le 19e siècle, et Churchill, qui est considéré comme l'homme politique européen le plus populaire. Et trois figures très positives, on aime.
Oui, c'est vrai.
On aime plus Danton que Robespierre. Victor Hugo est notre poète national, et Churchill, très populaire. Et quand on s'approche d'un peu plus près de ces grands hommes, on s'aperçoit en fait que ce sont trois survivants, et qui ont contracté une rage de vivre qui a dévoré leurs entourages respectifs. Pour rien au monde, moi j'aurais souhaité être le fils de l'un d'entre eux.
C'est un honneur quand même. Hein.
Belle
filiation quand même.
Oh, je sais pas. Je crois vraiment que il laissait pas d'espace. Ce sont des arbres à l'ombre desquels vous ne pouvez pas pousser, vous ne pouvez pas grandir.
C'est vrai ce que tu dis là. Et puis c'est quand même trois personnages qui, au niveau politique, ont marqué leur passage, au niveau histoire, enfin, on fait avancer les choses, quoi, d'une manière ou d'une autre, mais on fait vraiment.
Oui, moi je ne remets absolument pas ça en question, mais voilà, le marmouset que je suis égratigne un peu Victor Hugo. Après, c'est un. Comment dire, ce sont des personnalités tellement riches que j'ai choisi de faire des portraits violemment subjectifs et parcellaires, parce que je ne choisis que des petits moments de leur vie pour faire portrait. Et en vérité, par une personnalité comme Victor Hugo, on peut faire un portrait tout à fait opposé à celui que j'ai fait. Il y a tellement la matière est tellement riche pour en faire un autre. Mais voilà, c'était une filiation que j'ai voulu comme ça créer, avec un cordon ombilical comme ça qui traverse trois siècles.
Ouais, alors on va faire une petite pause musicale et on va un premier choix que tu as fait qui figure d'ailleurs dans ton dernier roman Débarqué à un moment. Et quand j'ai lu, moi j'ai découvert ce morceau-là d'une manière bizarre, puisque j'ai participé à un rassemblement de chorale au printemps dans le cadre d'actions caritatives, et il y avait Le temps est bon, le ciel est bleu. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah mais je connais ça.
J'adore cette chanson.
Et elle est très belle, cette chanson. Merci. Tan tan daran, 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 tan tan daran. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon.
grand, 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 grand comme le vent, et je suis douce comme l'eau, et je suis tendre, 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 tendre pour mes amants. Je suis la fleur dans leur cerveau. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Mes deux amants sont beaux comme les arbres fous, mes deux amants. De l'âme jusqu'à la peau, les nuits sont longues, les jours sont chauds. Je ne savais plus voir, je ne savais plus entendre, je ne savais plus. Voici que je regarde, que j'écoute et que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Le temps est
avoir choisi cette chanson.
Alors c'est une chanson que je chante à ma fille pour l'endormir le soir. Maintenant
c'est très beau. Elle a beaucoup de chance d'avoir une chanson comme ça pour s'endormir.
Et maintenant on fait même un duo ensemble sur cette chanson.
C'est bien.
Moi j'aimais beaucoup le contraste au moment où cette chanson retentit dans le bocage. Ouais. Où Magali est au plus bas, ben il y a cette espèce d'insouciance dans
de
cette chanson
prise,
de joie, de soleil. Et j'aimais bien le contrepoint. Ouais.
C'est une très belle chanson, un très bon choix. Alors, ton roman, Le Courage des Autres, me semble un peu plus autobiographique. Je pense qu'il y a beaucoup de toi dedans. Même si dans les autres romans, je sais que chaque écrivain met de lui-même, hein, obligatoirement. Mais là, vraiment, c'est toi. Et j'aimerais savoir quel regard tu portes aujourd'hui sur notre société, ce courage des autres. Existe-t-il toujours ce courage des autres sur nos responsabilités, sur le désengagement, sur la loi et notre libre arbitre? Beaucoup de questions.
Vous avez 4 heures.
Ah ouais. C'est presque un sujet de philo.
Là. Oui, là, c'est...
Plus autobiographique.
Le courage des autres, ça se passe dans les transports en commun. Alors, ouais. En vérité, c'est vrai que ça pourrait se passer n'importe où. Il y a du public, dans une file d'attente, au supermarché,
dans
à la poste.
Dans un bus, par exemple,
à Laval.
Absolument,
hein, dans un bus, mais bien sûr, partout. Je dois dire que... Et c'est un message d'espoir que je porte là. En 15 ans dans les transports en commun, puisque Le Courage des Autres raconte des scènes de courage auxquelles j'ai assisté pendant 15 ans, je n'ai, face à une situation d'incivilité, des agressions verbales, voire même parfois des agressions physiques, il s'est toujours trouvé quelqu'un pour intervenir. Je n'ai jamais vu une passivité complète. On dénonce souvent cette passivité.
Ouais, ouais.
Et c'est l'objet, d'ailleurs, du livre, parce que c'est ma propre passivité que,
oui.
que je dénonce.
Oui, oui, hein. oui, oui là, on sent bien
Le courage des autres, en creux, c'est ma propre lâcheté que ça raconte. Le métro, les transports en commun, c'est l'un des derniers endroits où tout le monde se croise. Tout le monde est là. La société entière. Vous avez des riches, des pauvres, vous avez des Français, des étrangers, vous avez des enfants, des vieux, des crapules, des gens bien. Tout le monde est là. Et c'est un théâtre avec ses règles non écrites, ses entrées, ses sorties. Et bien cette société qui donne à voir le meilleur et le pire d'elle-même, eh bien il s'est toujours trouvé quelqu'un pour la relever. Quand il le fallait.
Donc en fait, c'est un message d'espoir.
Ben oui.
Par les temps qu'on vit, ça fait du bien hein, d'avoir de l'espoir en quelque chose d'un peu plus lumineux. Voilà. On va peut-être terminer par un deuxième moment musical. Alors là, on va retrouver... Enfin, moi, j'ai senti que j'ai écouté, j'ai ressenti ton univers huis clos. Voilà. Très beau. Très soft. Merci beaucoup.
Merci.
Remember the day, I remember it well. My baby looked right through me, and I could tell. He wouldn't even touch me, couldn't look me in the eye. His lips said, I'm sorry. Wow, his heart said goodbye. And I'm tired. And I'm ready to lay down. He won't kiss me no more, don't even conversate. I put his food on the table and he won't even touch his plate. Even a blind man, even a blind They say you reap just what you sow. But I really, 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 really don't want to go. But I'm tired and I'm ready to lay down.
Hugo, un grand merci pour ce moment musical, c'était vraiment superbe, sublime. Merci aussi d'avoir participé, de t'être prêté au jeu de cette émission Lecture en tête-à-tête.
Merci Christine pour la qualité de cet échange, merci infiniment.
À très bientôt.
À bientôt.